On a tous en mémoire un ou deux ou mille souvenirs culinaires, des petits et grands moments de partage, sophistiqués ou improvisés. Que ce soit un festin somptueux ou une improvisation gourmande, chaque plat a le pouvoir de raconter une histoire, de créer des liens et de faire battre nos cœurs un peu plus fort. À travers ces mets qui éveillent nos sens, nous explorons les joies simples et les émotions profondes qui peuvent rendre un repas mémorable. Parce que cuisiner, c'est bien plus qu'une simple préparation culinaire. C'est une façon de montrer son affection, de célébrer la vie et de s'exprimer avec une touche personnelle. Alors les ingrédients de l'émission sont simples. Un épisode, une recette, une rencontre. Dans Cuisiner avec amour, nous avons choisi d'explorer l'essence même des moments passés dans la cuisine. Chaque épisode sera une immersion dans une recette, une rencontre avec une personne qui partage ses histoires, ses passions. Parce qu'au-delà des ingrédients et des techniques, il y a des récits à découvrir, des rires à partager et des liens à tisser. Alors préparez-vous à vous immerger dans les aventures culinaires où chaque plat est une déclaration d'amour, chaque préparation, une histoire à raconter. Alors c'est amusant parce que dans une précédente interview, on était avec Agnès qui est berlinoise. Agnès, c'est marrant parce que je lui demandais un petit peu ce qui lui manquait de Berlin et ce qu'elle avait retrouvé en France, qu'elle n'avait pas à Berlin et voilà et vice-versa. Et elle nous disait qu'en France, on faisait bien la baguette, mais que tout ce qui était pain au levain, vraiment, il y avait moins de diversité qu'en Allemagne et qu'on était un peu moins bon là-dessus. Juste après ça, on se rencontre et donc on arrive ici dans une chapelle avec Ludovic qui s'appelle Hell. Mon nom de famille, c'est assez rigolo, H-E-2-L. Qui est d'origine allemande en plus, il n'y a jamais de hasard au Vigan. Donc dans une chapelle, et Ludovic qui depuis assez peu de temps multiplie les pains, et en l'occurrence les pains au levain. Alors est-ce que ceci est ton corps, je ne sais pas, mais est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment on fait un bon pain, puisqu'on part toujours d'une recette dans cette émission. Quelle est la recette d'un bon pain?
Alors un bon pain, déjà pour commencer, c'est un pain qui est au levain naturel, c'est-à-dire que c'est un pain dans lequel il n'y a aucun espèce d'intrant. C'est un pain avec une farine d'excellence, bio évidemment, de préférence, et donc travailler au levain naturel. Le levain naturel, sachant que c'est juste de l'eau et de la farine, c'est-à-dire absolument rien de plus. C'est un mode de fermentation qui nous permet donc de faire lever la pâte et d'avoir donc des pains magnifiques qui sont à la fois extrêmement goûteux, parce qu'évidemment le levain aussi préserve le goût. On peut travailler sur différents levains suivant le type de pain. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'élève 3 ou 4 levains. J'élève un levain de seigle pour mes pains de campagne. J'élève un levain de corazan pour mon corazan. J'élève un levain de petit épeautre pour mon petit épeautre. Et j'élève un levain de riz pour mon pain au riz. Ce qui fait une petite famille quand même de levains. Donc il faut s'en occuper avec beaucoup d'attention. Ou d'amour éventuellement, mais surtout beaucoup d'attention, parce que quand ils se mettent à partir en fermentation vraiment, bah ça part vraiment en fermentation, c'est-à-dire qu'ils soulèvent les couvercles des pots, etc. Donc il faut être dans des timings extrêmement précis pour travailler les levains au pH mètre, c'est dire si c'est précis, de manière à avoir le meilleur pain au final.
Comment on élève un levain? On le nourrit, on fait quoi?
C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on le nourrit à espace régulier, à dose régulière. Et il y a des levains, j'ai entendu parler de levains en Italie, chez des boulangers qui avaient plus de 200 ans. C'est-à-dire qu'un levain peut s'entretenir ad vitam aeternam, en fait. On revient à la chapelle.
Tous les matins, il achetait son petit pain. Au chocolat, aïe, 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 aïe. La boulangère lui souriait, il ne la regardait pas. Aïe, 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 aïe. Et pourtant, elle était belle, les clients ne voyaient qu'elle. Il faut dire qu'elle était vraiment très croustillante. Ses croissants et elle rêvait mélancolique le soir dans sa boutique à ce jeune homme distant. Il était mieux que voilà tout, mais elle ne le savait pas. Aïe, 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 aïe. Il vivait dans un monde flou où les nuages volaient pas. Qu'elle était belle.
Avec ce levain qu'on a élevé avec amour et surtout beaucoup d'attention, comme tu le disais, comment est-ce qu'on fait le pain ? Est-ce que tu peux nous donner les étapes d'une recette pour la fabrication d'un pain ? Et peut-être nous parler d'un pain qui te tient particulièrement à cœur, parce que c'est vrai qu'on parle pas mal du cœur dans cette émission Cuisiner avec amour.
Alors, globalement, les principes sont vraiment extrêmement simples. Il va s'agir d'intégrer ce levain donc, qu'on a élevé, qui, je rappelle, c'est de l'eau et de la farine. Et on va intégrer cette pâte, donc qui est en fermentation. On va l'intégrer dans le pétrin à notre mélange de farine et d'eau. Tout ça avec des doses extrêmement précises, avec un pétrissage qui lui-même est très doux. On essaye de garder la cohérence de la pâte, d'avoir une cohésion de ce qu'on appelle les gluten qui sont intégrés dans la pâte, de manière à avoir une pâte qui lève. En même temps, c'est relativement compliqué à expliquer, vu que c'est tellement simple. Il y a trois éléments, en fait. On a de l'eau, de la farine et un petit peu de sel. Il n'y a rien d'autre, strictement rien d'autre, qui rentre en ligne de compte. Après, ce qui rentre en ligne de compte, c'est tout le savoir-faire. C'est-à-dire, c'est le temps de pétrissage, c'est le temps de repos qu'on va laisser à la pâte, c'est le temps de pousse, c'est la manière qu'on va avoir de manipuler la pâte. C'est-à-dire qu'on peut vraiment, avec une mauvaise manipulation, casser les réseaux de gluten de la pâte. C'est la manière dont on va cuire la pâte au final. Et tous ces éléments-là, c'est vraiment objectivement compliqué à expliquer chaque étape, mais c'est un suivi de fabrication qui fait qu'au final, on a des pains qui sont très appréciés, notamment parce qu'ils sont gustativement très goûteux. Et ils ont une texture aussi qui est, enfin, à mon sens, hein, je veux dire, c'est ce que je recherche, une texture vraiment avec une mie qui est douce, avec une vraie croûte. C'est vers ce quoi je tends.
C'est marrant ce contraste entre la simplicité des ingrédients, parce que tu nous parles grosso modo de trois ingrédients en fait, et l'incroyable diversité des pains en fait que tu proposes ici, parce qu'il y a énormément de choix. Il y a des très beaux pains qui ont l'air extrêmement différents les uns des autres. Donc ça se joue, j'imagine, aux farines.
Bien entendu, les farines. Donc, je me fournis depuis le tout début. Je tenais vraiment à me fournir le plus localement possible et à établir une relation avec une minoterie, avec un meunier. Donc, ça, c'est chose faite. C'est-à-dire, je me fournis au moulin de Cologne en Lozère et j'ai pu les rencontrer. J'ai passé une journée entière qui était vraiment fabuleuse dans leur moulin, qui est à côté de Chirac en Lozère. Et donc, du coup, j'ai décidé de me fournir exclusivement chez eux. Et donc, ils ont tout le panel des farines. C'est-à-dire que ça va de la farine T80, qui est celle que j'utilise le plus. C'est-à-dire que c'est ma farine semi-complète. À de la farine complète, à de la farine de petite épeautre, de la farine de corazan. Ils me livrent aussi la farine de riz. Et les farines qui sont plus des farines habituelles qu'on trouverait dans les familles, des familles domestiques, c'est-à-dire des T65, pour ce qui est viennoiserie, la farine blanche.
Alors, je te propose qu'on écoute un petit morceau de musique, du coup, pendant, on va dire, pendant que le pain cuit.
Ben moi, ce qui me ferait très plaisir, ça serait en hommage à Claude, mon père, qui est décédé l'année dernière en avril. Donc, on n'aura pas l'opportunité de voir pain nu. Il avait bien aimé le nom. Et donc, c'est un morceau de Nina Simone qui s'appelle « My baby just care for me ».
Temps ça prend de faire un bon pain?
Il y a deux méthodes, c'est-à-dire qu'il y a des pains que je travaille, on appelle ça en direct, c'est-à-dire que je les prépare le matin, ils sont cuits dans la journée, et il y a d'autres pains avec une fermentation plus longue qui sont préparés la veille et qui restent en chambre de fermentation et qui sont cuits le lendemain. Et on peut pousser ça plus loin, c'est-à-dire qu'on peut pousser cette méthode à 2 jours de fermentation. Suivant comment on dose encore une fois le levain, c'est-à-dire évidemment on va mettre moins de levain, ça va fermenter plus longtemps et le levain va se développer au sein de la pâte sur 2 jours.
Et cette durée elle apporte quoi du coup?
Comment dire? C'est-à-dire que les levains, le travail qu'ils font sur la farine pendant le pétrissage et pendant la pousse, ça va être de quelque part de prédigérer un petit peu la farine. C'est-à-dire de faire un vrai travail, je ne sais pas si ça se dit, enzymatique. Et donc ça va modifier aussi le goût du pain. c'est-à-dire avoir des savoirs plus, peut-être plus subtils. Pareil, encore une fois, c'est faut le goûter pour pouvoir l'exprimer. Ça serait comme parler d'un vin, c'est que c'est compliqué.
T'arriveras à nous décrire le goût du pain que tu préfères dans ce que tu fais ?
Le pain que je préfère, il n'est pas encore dans les pains que je fais actuellement. Parce que j'ai commencé avec une gamme, vu que je viens d'ouvrir la semaine dernière, j'ai commencé avec une gamme, confortable, qui ne soit pas trop compliquée. Mais au niveau goût, je pense que c'est vraiment les pains nordiques, les pains de seigle que je préfère. Parce que je les imagine tout de suite avec du poisson fumé ou même du poisson cru. Mais ils sont techniquement compliqués à travailler. Donc je vais attendre un tout petit peu avant de travailler les farines vraiment 100% seigle.
Ce que j'entends, c'est aussi que tu as le projet quand même de diversifier de plus en plus ton offre, en tout cas de l'adapter, de la faire évoluer, de créer des recettes nouvelles aussi. Tu me faisais remarquer tout à l'heure qu'on était sur le boulevard des Châtaigniers, que tu travaillerais aussi avec des produits locaux.
Bah, tout à fait, je suis quasiment obligé sur le boulevard des Châtaigniers, au Vigan en plus, dans un pays qui est le pays de la châtaigne. Hein. Je veux dire, je suis obligé à un moment donné de travailler une farine de châtaigne. J'ai une petite idée derrière la tête. C'est quelque chose que je vais développer, on va dire, d'ici les vacances de Noël.
Et alors, j'en viens un petit peu à ton parcours. Comment est-ce que tu en es venu au pain ? Parce que tu as eu une vie avant, tu as eu une autre vie complètement différente de celle de boulanger. Avant de découvrir ce métier, avant de te passionner pour le pain, pour les levains, qu'est-ce que tu faisais avant ? Est-ce que tu peux nous en parler ?
Oui, en effet, j'ai eu une autre vie. C'est-à-dire que là, j'entame la deuxième saison de ma vie, on va dire. La première saison était dédiée complètement pendant 35 ans au métier du dessin animé. C'est-à-dire que j'ai travaillé dans l'animation pendant 35 années. J'ai débuté dans le coin, j'ai débuté à Saint-Laurent-le-Minier. Beaucoup de gens connaissent la fabrique, je veux dire, où il y a eu pas mal de talents dans ces métiers-là. Après, j'ai pas mal bourlingué. Beaucoup en Asie, j'ai passé 6 ans au Vietnam. Et sur la fin, j'ai passé 2 ans en Scandinavie, en Finlande. J'étais superviseur souvent de séries télé, parfois de longs métrages. C'est-à-dire que j'ai dirigé des très grosses équipes. C'est-à-dire que le dessin animé, c'est une industrie, donc c'est des équipes de minimum 150 personnes. Donc c'était passionnant, hein, je veux dire, comme métier, clairement. Éprouvant, mais passionnant. Et bon, je pense qu'il n'y a rien d'original non plus, c'est-à-dire que la période qu'on a tous vécue de Covid, où on s'est tous retrouvés à travailler derrière des écrans, il y a eu une sorte de prise de conscience, hein, qui était un petit peu générale. Et le changement, en fait, s'est opéré sur le fait que je voulais m'inscrire vraiment dans le cœur de la vie locale du pays où j'étais installé. Et essayer de retrouver cette logique, c'est-à-dire de ne plus être écartelé entre Paris, le Vietnam ou Helsinki. Même si c'est très agréable. Mais voilà, c'était un petit peu de me recentrer. Et l'idée, parce que je suis passionné de cuisine, et dans ces pays, j'ai pu vraiment explorer et aller assez loin dans l'expérimentation culinaire. Donc pendant un temps, je me suis dit que j'allais me reconvertir en restaurateur ou table d'hôte ou quelque chose dans ce goût-là. Donc j'ai commencé à chercher. Et en fait, par la force des choses, du fait que dans le pays viganais, au Vigan, il y avait un vrai manque autour du pain. J'en suis arrivé au pain. Mais j'en suis pas arrivé au pain en ayant fait ne serait-ce qu'une seule fois un pain chez moi à la maison. Ça ne m'est strictement jamais arrivé. Ben, je me suis inscrit à une école qui s'appelle l'École internationale de boulangerie. Il faut savoir que les délais d'inscription, à partir du moment où on s'inscrit et le moment où on est effectivement en formation, il faut s'attendre à passer 2 années. C'est-à-dire 2 années où on peut vraiment bien réfléchir à son projet. Ça ne se passe vraiment pas comme ça. Et par contre, la formation en soi est extrêmement courte. C'est-à-dire que c'est 3 mois et demi. Ça aboutit à un bac professionnel. Donc c'est rentrer un peu dans une essoreuse. C'est hyper intense, hyper qualitatif. C'est-à-dire que c'est vraiment du très très haut niveau. Et voilà, donc je regrette rien. Et ça m'a vraiment donné le goût de m'engager dans cette voie. Strange world, hoping I could learn a bit about how to give and take. But since I came here, felt the joy and the fear, finding myself making every possible mistake. La 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 la. I'm a young soul in this very strange world.
this strange world, hoping I could learn a bit about how to give and take. But since I came here, felt the joy and love feel, finding myself making every possible mistake.
Le pain, ça représente quoi selon toi dans la cuisine, dans la gastronomie de manière générale? Tu disais que tu avais beaucoup voyagé en Asie, que tu étais parti à Helsinki.
Bah, le pain, je pense que c'est un côté quand même universel, clairement. Parce qu'avant ça, quand j'étais enfant, je vivais dans les pays arabes, au Moyen-Orient. Le pain, là aussi, c'est des pâtes qui ne sont pas levées. Le pain est travaillé de manière totalement différente. Dans les pays nordiques, l'utilisation du seigle, du pain très noir, avec des saveurs de presque, je dirais, de tabac ou de café ou de marc de café ou des choses comme ça. Il y a une quantité de pain différent à travers le monde qui c'est complètement insensé. Je veux dire, en Amérique du Sud, les pains à base de farine de maïs, pour moi, c'est sans fin. Il y a toutes sortes de pains.
Avec toujours cette simplicité des ingrédients, mais une diversité incroyable.
Oui. Et basiquement, c'est quand même un des ferments de la nourriture de l'humanité. Je veux dire, c'était le premier aliment qu'on pouvait transporter, qui pouvait traverser les pays, qui pouvait nourrir des populations entières. Quand on pense au khorasan, qu'il s'agit de graines qui ont été retrouvées dans des jarres égyptiennes au fond de pyramides et qui ont été replantées, on a redécouvert ce blé de khorasan. Donc moi j'aime bien expliquer ça aux gens quand ils viennent à la boulangerie. Presque tous, ils me demandent le khorasan, qu'est-ce que c'est ? Et je leur explique que ça vient vraiment de l'époque des Égyptiens, qu'à l'époque ils le cultivaient, ça a été oublié pendant des siècles et des siècles. C'est un pain qui a un goût de noisette assez prononcé et qui a des bienfaits au niveau de la santé qui sont absolument incroyables. C'est le pain des sportifs en fait, le pain de khorasan. C'est-à-dire très riche en protéines. Et très limité en glucides. Donc c'est une sorte de pain idéal.
Il y a la notion d'authenticité qui ressort beaucoup dans ce que tu décris. Qu'est-ce que ça représente pour toi ?
D'authenticité, oui, et puis avec, mais qui est liée quand même à une certaine, je dirais, modernité aussi. Parce que je travaille avec des équipements qui sont quand même modernes. Je travaille avec des procédés qui sont entre guillemets scientifique, pour être le plus proche possible du résultat que j'escompte obtenir. Donc oui, c'est un peu un mix des deux. Dans la cuisine en général, hein, je pense que si on part de produits non transformés et qu'on les combine, on peut arriver à faire de très belles choses. Quand je vois le retour des gens, ne serait-ce que les sourires, et alors ça, c'est complètement transgénérationnel. J'ai eu un petit garçon de peut-être 4-5 ans qui est arrivé avec une banane incroyable et qui m'a dit « Ouais, le pain, il est génial ». Donc ça, c'est hyper touchant. Et j'ai des mamies avec leur cabas qui attendent que j'ouvre, je veux dire, pour venir chercher le pain. Donc c'est absolument... c'est génial, c'est vraiment du partage pour le coup.
Donc on a parlé de la place de l'amour dans ta fabrication du pain et de la place de l'amour en cuisine de manière générale. Et dans ta vie, c'est quoi la place de l'amour ?
Elle est primordiale, c'est-à-dire vivre sans amour, ça n'a pas de sens en soi, je veux dire, donc... Elle est primordiale. Toutes les personnes proches, que ce soit mes enfants, ma compagne et ma famille en général, je veux dire, et mes amis aussi, parce que les amis, c'est aussi de l'amour. Je veux dire, c'est des gens avec qui on a envie de partager. On a envie de partager des moments. On a envie de partager de la nourriture. Ça serait trop triste de vivre sans tout ça. Ça fait partie de l'univers dans lequel on est et il ne faut surtout pas s'en priver.
Et du coup, en venant, on peut jeter un petit œil aux quelques vitraux qui restent, qui sont assez amusants. Effectivement, on est un peu dans la chapelle du pain, on a l'impression, quand on arrive ici.
Oui, c'est à la fois, c'était une ancienne chapelle, Mais c'était aussi, pendant des années, moi j'ai connu ce lieu, je ne l'ai pas connu en tant que chapelle, mais j'ai connu en tant qu'imprimerie. C'est-à-dire c'était l'imprimerie Clément, du papa de François Clément, qui est actuellement imprimeur au Vigan. Donc c'était l'imprimerie initiale qui était installée au Vigan. Donc il y avait des grosses machines très anciennes avec des lettres en plomb, etc. Et c'était un petit peu le lieu de convection un petit peu des intellectuels du coin. Donc il y avait plein de phrases qui étaient écrites au mur et j'ai voulu garder un petit peu cet esprit en peignant un mur tout en noir avec de la peinture comme pour les tableaux d'écoliers pour qu'on puisse éventuellement s'exprimer sur ce mur. Il y a par exemple quelqu'un qui s'appelle Karim, je crois, qui m'a sorti un truc, alors je ne sais pas si ça va me revenir, mais il me dit « Ah, j'ai pensé au nom de ta boulangerie. » Donc le nom de ma boulangerie, ce n'est pas un nu. Et nu comme tout nu, comme le vin nature, comme le vin nu. Et il me dit ben, « on pourrait peut-être écrire pain nu, pain pris. » Et ça m'a fait rire, parce que pas vu, pas pris. Et voilà, donc on va en trouver des petites sentences comme ça qui peuvent être amusantes, peut-être autour du pain ou autour de peut-être des jeux de mots, ou je ne sais pas.
On souhaite d'écrire une belle histoire au pain nu. Merci beaucoup.
Ben merci à toi de m'avoir reçu.
Merci d'avoir rejoint notre petit voyage culinaire. C'était Cuisiner avec amour. Nous avons hâte de vous retrouver pour de nouvelles recettes, de nouvelles rencontres et de nouveaux moments de partage. Sur ce, continuez à cuisiner avec amour, à partager avec passion et à célébrer chaque instant avec délices.